La Vie Naturelle vous propose l'émission Rencontre. Bénéficiez de réductions sur les meilleurs produits de santé naturelle sur www.la-vie-naturelle.com.
Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui nous allons entrer dans l'action et pour ce faire on a le grand plaisir de retrouver un intervenant qui était venu nous présenter son premier ouvrage sur l'attitude des héros. Alors il est criminologue de première formation, aujourd'hui il coache les gens finalement à devenir un peu les héros de leur propre histoire. On a le plaisir d'avoir dans ce studio Fred Colantonio, bonjour Fred.
Salut Nathalie.
Tu vas bien ?
Très bien, merci. Et toi ?
Bah super, c'est toujours un bonheur de t'avoir. Plein d'énergie positive, avec plein de projets, plein d'envie. T'es toujours sur tous les fronts finalement.
Oh bah on se bouge. Hein.
On se bouge, voilà.
C'est ça la logique de l'action. Hein. À pas confondre avec l'agitation, évidemment. Mais le fait d'être en mouvement et d'avoir une existence qui est dense et bien remplie, en tout cas à titre personnel, moi c'est ça qui m'anime.
Est-ce que toi, dans ta perso, hein, dans ta logique de fonctionnement, l'expérimentation, l'action doit passer en premier lieu, avant toute chose ? Limite, on réfléchit après, mais on se lance.
Ouais, je crois que c'est une des difficultés de la société à l'heure actuelle et peut-être de l'être humain, c'est l'intellectualisation à outrance, quoi. Et donc, à un moment, c'est bien de réfléchir, mais... Si on ne fait que réfléchir, il risque de pas se passer grand-chose, quoi. Et si tu regardes la manière dont tu fonctionnes quand tu es petit, quand tu es enfant, ben, tu as plutôt tendance à faire d'abord et à apprendre de ce que tu as fait. Mm-hmm. C'est comme ça que tu apprends à rouler à vélo, par exemple. À un moment donné, tu te mets pas devant le vélo en train de regarder en disant « Tiens, est-ce qu'il est bien calibré ? Les pédales sont au bon endroit ?» Non, à un moment donné, le vélo, tu montes dessus. Parfois, parce que tes parents ou des proches te disent « Allez, c'est le moment d'apprendre. » Mais a priori, ben, tu montes sur le vélo, tu tombes une fois, deux fois, trois fois. Et puis, tu commences à trouver progressivement l'équilibre et c'est à ce moment-là que t'ajustes, quoi. Et donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui intellectualisent, on en a besoin, il en faut, je le fais moi-même pour les bouquins, etc. à un moment donné, donc théoriser est intéressant mais pas au détriment de l'action, parce que c'est à travers l'action qu'on change les choses.
Alors justement, qu'est-ce qui empêche, je pense qu'on va commencer un petit peu par le début de ton ouvrage où tu parles des excuses. Mmh. Est-ce que finalement les excuses, les gens s'en servent pour ne pas se mettre dans l'action ?
Ah, en permanence, quoi. La logique de fonctionnement, elle est la même que pour le premier bouquin. Hein. Donc le premier bouquin, c'était Inspiration, ça présentait des personnalités hors du commun qui sont mes Jedi à moi, quoi. C'est mes héros, c'est les gens dont je m'inspire. Et alors dans la deuxième phase, j'ai regardé aussi la manière dont eux fonctionnaient pour passer à l'action, si tu veux, et voir les mécanismes auxquels ils adhèrent et qu'ils appliquent pour pouvoir réussir. Et c'est vrai qu'il y avait toute une partie où c'est la première partie du bouquin, en fait, c'est la partie de préparation à l'action. Parce qu'en réalité, on passe à l'action tout le temps. Donc toi et moi et les auditeurs, on passe tous à l'action, on prend des milliers de décisions par jour, on fait des choix tout le temps. Le problème, c'est que on est en permanence conditionné par des choses qui sont peut-être pas les choses qui comptent le plus pour nous. Et donc l'idée de se préparer à l'action, c'est à la fois de déconstruire les idées reçues qui empêchent les gens de passer à l'action, et c'est aussi de se dire « Ok, je me mets dans les bonnes dispositions pour passer à l'action de façon efficace et gagnante. » Et dans la manière de déconstruire un peu les idées reçues, moi j'ai identifié 4 points qui sont ce que j'ai appelé la logique du cap zéro. Parce qu'il y a toujours une bonne raison à l'inaction. Et donc, pour être très précis, il y a 4 idées préconçues qui peuvent nous venir à l'esprit dès lors qu'on veut passer à l'action. Et c'est le cap zéro. Donc, dans le cap zéro, le C, c'est les comparaisons. Et donc, tu vas dire, oui, mais ça sert à rien que j'y aille, regarde celui-là ou celle-là, ou cette personne, elle le fait déjà, et elle le fait déjà tellement bien et tellement mieux que moi, je ne vais pas faire de différence, quoi. Donc, ça sert à rien que j'y aille. Le A du cap zéro, c'est l'autocritique. Et donc là, tu dis, mais de toute façon, je suis nul. Donc, j'arriverai jamais à rien. Le P du cap zéro, c'est les prédictions. En disant, ça va foirer, c'est sûr. Ça sert à rien de se lancer, je vais passer à côté. Et le O du cap zéro, que je réinterprète en zéro, le O, c'est les obstacles, quoi. C'est dire, ah, mais forcément, ça va être compliqué, quoi. Ça va être dur. Et donc, inconsciemment, si tu veux, enfin, c'est pas tellement inconscient, c'est qu'on est tellement noyé à travers la presse généraliste de messages qui vont dans ce sens-là que j'allais dire spontanément, en tant qu'être humain, on finit plutôt par chercher toutes les bonnes excuses qui vont nous empêcher d'y aller et nous donner raison de pas y aller, que de se dire, bah, finalement, ok, on sait que c'est là, on va pas pouvoir empêcher ces pensées-là d'arriver, simplement on n'est pas obligé d'y adhérer, quoi. Et donc on peut très bien, dans la préparation à l'action, réapprendre à se dire, ok, je sais qu'il y a ça qui me bloque, qui me fait dire que peut-être je ferais mieux de pas y aller, mais comme j'ai pas envie d'avoir un cap zéro, j'y vais quand même.
Est-ce qu'il y a un côté, finalement, pour qui est-ce que je me prends pour oser penser que j'y arriverai?
Oui, peut-être que culturellement, ça c'est très francophone européen, quoi, hein, de se dire oui, mais enfin, on parle de réussite, on parle de succès, on parle d'attitude héroïque, d'attitude gagnante. Qui suis-je pour y prétendre?
Voilà.
Et là, je dirais, chacun sa montagne, chacun son sommet, quoi. Donc, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment chaque personne peut arriver à aller au-delà de ce dont elle se croit capable. Et ce qui sera un vrai défi pour toi sera peut-être pas un défi pour moi, quoi. Et ce qui sera un vrai défi pour moi, qui va me demander du temps, qui va me demander de la préparation et de l'action minutieuse, appliquée et répétée, bah, toi, tu vas peut-être dire, ouais, mais ça, pour moi, c'est un parcours de santé, quoi. C'est une promenade, c'est une simple balade. Ça, c'est vraiment à la liberté de chacun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est d'aider les gens à avoir le déclic de se dire... Bah oui, si ça se met, c'est un peu comme un logiciel, quoi. Par défaut, j'utilise 20% de mes capacités. Mmh. Et donc, j'ai les possibilités d'aller un peu, beaucoup, passionnément au-delà.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont te tenir le discours de c'est plus facile pour des personnes extraverties que pour des gens un peu timides, introvertis, de se lancer dans l'action? Est-ce que ça, déjà, ça fait, j'imagine, partie des idées reçues ou des choses qui nous servent d'excuses, en fait, pour ne pas y aller?
Oui, de nouveau, je pense que ce sont des prétextes, quoi.
Le tempérament. Parce que c'est vrai, comme tu dis, il y a des échelles d'action. C'est-à-dire que pour certaines personnes, une action pourra représenter un truc de quotidien, et pour d'autres, ce sera un pas énorme.
Mmh. Oui, tout à fait. Tu sais, l'attitude gagnante, c'est la résultante d'une équation simple. Hein. C'est l'état d'esprit gagnant plus le comportement gagnant. Mmh. Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de l'état d'esprit, bah, tu dois avoir une disposition mentale qui te prépare à l'action. Et dans cette disposition mentale, il y a un point que j'aime beaucoup, c'est notamment le fait de croire en soi. C'est pas spécialement avoir confiance en soi. La nuance est un peu fine, mais elle est super importante à comprendre. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient, avec les conférences, les bouquins, etc., en disant, oh, mais c'est facile pour toi parce que t'as confiance en toi. Et à chaque fois que j'ai entendu ça, pendant des années, je me suis dit, mais il y a un problème avec ça, parce que je suis pas d'accord, quoi. Je n'ai pas tellement confiance en moi, et je me retrouvais pas, si tu veux, dans ce discours des gens qui me disaient, toi, c'est facile, t'as confiance en toi. Je stresse avant chaque conférence, quand il y a un bouquin qui sort, bah, c'est toujours un peu aussi la pression de se dire comment est-ce qu'il va être accueilli, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un je doute beaucoup, donc j'ai pas l'impression d'avoir une grande confiance en moi. Par contre, il y a des aptitudes sur lesquelles je sais que je peux compter. Et donc, je sais que je peux faire des phrases qui, a priori, ont du sens. Je sais que je peux me tenir devant une assemblée de personnes sans trop flancher. Je sais que je peux raconter une histoire qui va donner envie aux gens d'aller au bout. Mmh. Et sur base de ça, ben, je me dis que même si j'ai pas confiance en moi, j'ai suffisamment d'éléments, suffisamment d'indices qui me permettent de dire « je crois en moi pour, malgré tout, oser le faire ». Tu vois ? Et après, je fais confiance à mes interlocuteurs, aux personnes qui écoutent, aux personnes qui lisent, aux personnes qui viennent aux conférences, pour se dire, ok, on comprend bien l'attention du bonhomme, et ça vaut le coup. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit. Et après, t'as le comportement gagnant. Le comportement, c'est comment on traduit ça en action. Et là, je dirais, que tu sois introverti, que tu sois extraverti, il y a les principes d'action que tu peux appliquer, et qui vont avoir je dirais un degré de profondeur différent, selon que tu sois peut-être déjà un peu à l'aise dans l'exercice ou que ce soit vraiment plus difficile ou plus délicat. Mais la logique reste la même, quoi. C'est appliquer les 5 principes d'action dont je parle dans le bouquin et que j'ai identifié chez ces fameux héros qui ont réussi. Et chacun à son niveau, pouvoir se dire, je le teste, j'applique et surtout, je vais recommencer la fois d'après avec une amélioration, quoi. C'est de la logique de progression constante.
Puis finalement, tant qu'on ne s'est pas lancé, qu'est-ce qu'on en sait ? si on peut, si on sait le faire ou pas. Comme tu dis, déjà, tu pars du postulat qu'il y a des choses que tu sais faire, sur lesquelles tu peux compter. Où tu dis, limite, je fais confiance à mon inconscient. Voilà, je sais qu'il va bien me guider au moment où il aura besoin de me guider. Mais, dans l'instant, dans l'action, des choses surgissent auxquelles on s'attendait pas avant. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans ce processus d'action. C'est que, on va souvent au-delà de ce qu'on imaginait de soi-même.
Ah ben oui, les bonnes surprises, c'est toujours agréable à accueillir. Hein. Donc c'est vrai que les éléments qui font que je crois en moi et que j'ai partagé ici, ben c'est vrai que j'ai pu les expérimenter avec le temps. Donc là maintenant, c'est je dirais, ces points-là ne sont pas une surprise, c'est des acquis. Donc je sais que c'est des forces, c'est des clous sur lesquels je peux taper en disant, je dis ça, je sais que je m'en sors bien. Et je crois que chaque auditeur, chaque auditrice a l'aptitude à pouvoir mesurer un peu ces points-là. Ces points de force qu'ils ou elles ont chacun en eux, à condition de passer à l'action. Parce que si tu restes dans ton fauteuil en disant « Allez, aujourd'hui, j'ai un super état d'esprit, quoi, mais que tu ne démarres rien, malgré l'inconfort que ça suppose, hein, mais si tu ne démarres rien, ben, tu ne peux pas vérifier que, ben, effectivement, là, tu t'étais bien jaugé, tu avais bien perçu que tu pouvais être performant ou performante sur ce point-là. » Et à l'inverse, peut-être te dire, oula, mauvaise surprise, je croyais que j'allais être plutôt à l'aise et ça a été difficile, quoi. La logique de l'action, elle repose sur le fait de se dire qu'on n'est pas du tout dans un cadre où c'est un coup, une vie, quoi. Tu vois? C'est pas dire, j'essaye une fois, si ça foire, oula, je le mets sous le tapis, je fais semblant de rien, j'oublie que ça s'est passé et je retourne entre guillemets à ma vie normale. La logique de l'action, c'est vraiment comme quand t'as appris à rouler à vélo, quoi. T'y es pas arrivé du premier coup. Pareil, quand t'as appris à lire, quand t'as appris à écrire, quand t'as appris à dessiner, tout ce que tu apprends, quand tu fais du sport ou de la musique, la base, c'est
évidemment qu'on le maîtrise pas tout de suite, bien sûr.
Ah ben oui, mais tu dirais qu'en grandissant, plus tu grandis, moins tu t'autorises la boucle de rétroaction qui fait que tu te dis, je teste. Il y a ça qui a bien été, il y a ça que je dois améliorer, ou alors il y a ça que je dois laisser tomber, et je recommence ce cycle-là pour m'améliorer. C'est comme ça que tu arrives à la maîtrise, hein, pourtant. Mais plus on grandit, moins on s'autorise ce temps d'apprentissage.
Tu penses que les adultes, justement, sont un petit peu finalement dans une zone de confort, il y a des choses qu'ils maîtrisent, et rester dans ces choses-là les rassure, entretient une vision d'eux-mêmes plutôt en stagnante, qui est pas forcément extrêmement positif, parce que quand tu te lances des défis dans l'action, t'es souvent très bien avec toi-même et plutôt fier de toi. Mais c'est une manière de rester dans un espace où rien ne pousse, mais en même temps, voilà, rien ne se perd, ça reste.
Oui, bon, il y a des gens qui recherchent, hein, cet état de confort et qui disent, moi, j'ai pas de grande ambition ou je cherche pas à me fixer des défis, mais en même temps, je suis heureux, épanoui comme ça. Et ça, on peut tout à fait l'entendre. Je veux dire, c'est ok, quoi. Si les gens disent, moi, ma vie, elle me comble en étant au niveau où j'en suis et sans avoir de grandes attentes face à l'aventure de la vie, ça, c'est super. Maintenant, c'est vrai que la plupart des gens qui veulent se réaliser, ils ont souvent des aspirations à se dépasser et à jouer le jeu du défi. Mais on est plutôt dans une société, malheureusement, qui pour le moment pousse plutôt à l'immobilisme, quoi. Dans les discours, c'est plutôt préservons les acquis.
C'est ça.
Et donc, restons où on est sans trop remuer parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut perdre. Plutôt que de regarder, bah tiens, si on bouge, qu'est-ce qu'on risque de gagner ?
Exactement.
Tu vois ? Et ça change beaucoup. Il y a une, bon, un des héros dont je m'inspire, c'est Paulo Coelho, l'écrivain brésilien. Et lui, il dit cette phrase magnifique que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. »
Ouais.
C'est un peu l'idée, quoi.
C'est clair. Mais en même temps, elle n'est pas effrayante pour la plupart des gens. Donc finalement, tu as écrit ce livre... peut-être pour tous les gens qui sont pas heureux de leur vie quotidienne et de cette routine-là et qui ont envie de s'inscrire peut-être plus dans une aventure de vie plutôt qu'une vie bien rangée.
Mais ce livre est destiné à toutes les personnes qui, à un moment donné, se posent la question « Est-ce que je suis le personnage principal de mon histoire ?» Ce qui est la définition d'un héros. Hein. Mmh. Le héros, c'est la personne qui tient le rôle principal dans une histoire.
Le protagoniste.
Voilà, c'est le protagoniste. Et sachant que personne ne pourra l'être à notre place pour notre existence. Personne ne va réussir notre vie à notre place. Et donc, toutes les personnes qui, à un moment, se disent est-ce que je suis bien aligné sur ma trajectoire idéale ? Est-ce que je suis en train de réaliser ma légende personnelle, comme le dit Paulo Coelho ? Ben, le bouquin Il y avait Aspiration qui présentait un peu tous les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire je peux y arriver. Mais alors Action répond vraiment à plusieurs questions que j'ai reçues de participants à des conférences ou à des gens qui avaient lu le premier bouquin et qui disaient j'ai l'aspiration, je suis motivé, je veux y aller, mais j'ai du mal à faire le premier pas. Mm-hmm. Je ne sais pas par où démarrer, je ne sais pas comment, ou alors j'ai la crainte de vouloir foncer trop vite mais d'aller dans le mur. Et donc Action est vraiment là précisément pour dire ok, on va se préparer à l'action, on va appliquer 5 principes, on va se fixer des défis pour remettre les gens en route en fait. Et pour ceux qui le sont déjà, c'est vérifier que les actions sont alignées sur cette notion de trajectoire idéale.
J'imagine que tu connais cette citation que bon, moi perso j'adore, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est un petit peu l'idée aussi dans le premier bouquin Inspiration que j'avais adoré, tu présentes tout le parcours de ces gens qui, toi, hein, t'ont marqué, mm-hmm. et qui, justement, n'étaient pas formatés à penser que c'était impossible et ils y sont arrivés.
À toutes les personnalités hors du commun, tous nos héros, à chacun, à chacune, mm-hmm. Si on prend des personnes qui existent ou qui ont existé, parce que dans la fiction, c'est un tout petit peu différent, quoique les héros modernes de la fiction fonctionnent sur le même canevas, ce sont toutes et tous des personnes qui sont nées ordinaires. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé. Si tu prends, les héros des années 80, peut-être tu avais encore Superman ou autre qui était un individu entre guillemets extraordinaire, à savoir qui ne correspondait pas à un standard humain. Il avait une faiblesse qui l'humanisait. Si tu prends les héros modernes, Harry Potter, Erin Brockovich ou des personnages même de fiction comme ceux-là, ce sont tous des individus qui sont nés ordinaires, quoi. Et ils ont une aptitude ou un don qui fait qu'à un moment donné, ils ont une trajectoire hors du commun.
Comme nous tous, finalement, est-ce que tu penses qu'on vient tous avec un don sur Terre ?
On a tous des aptitudes. Simplement, la plupart des gens, je pense, peut-être par crainte, peut-être par plutôt focalisation sur le quotidien et moins sur la notion de trajectoire, laisse échapper un peu le fait d'investir en eux-mêmes pour se dire ça m'intéresse de trouver mes aptitudes, ce en quoi je suis bon, les points forts sur lesquels je peux taper, pour justement avoir cette existence pleine et entière.
Finalement, c'est un petit peu des gens qui restent sur la rive à observer la barque qu'ils étaient censés prendre, continuer le chemin. Un peu sans eux, il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là, de pas investir vraiment leur vie.
Et c'est la notion de vie par procuration, après. Hein. C'est j'ai peut-être une insatisfaction profonde. Moi, j'utilise souvent l'image comment est-ce qu'on veut se coucher le soir, quoi. Donc, comment est-ce que tu veux te coucher le soir en disant j'ai trouvé en moi des éléments qui me permettent de me coucher en étant heureux, en me disant je suis en marche. Parfois c'est dur, hein. Donc tu te couches parfois le soir en disant merde, aujourd'hui ça a pas été comme je voulais, mais avec l'impression profonde de dire je suis en marche, demain ça ira mieux, on repart, on va trouver une astuce, ça finira par se mettre en place. Ou alors tu te couches le soir en ayant regardé une émission TV où t'as vu des gens qui se sont dépassés et tu te dis ah oui, c'est quand même bien de voir gens qui y arrivent, quoi. Mmh. Alors, de nouveau, les deux se respectent, hein. Je trouve que simplement ça peut être intéressant à l'échelle d'un individu de se poser cette question là dans quelle catégorie j'ai envie d'être, quoi. Et les gens qui se sont posé la question et qui disent voilà, moi j'ai pas de grande ambition ou de grande attente face à l'existence, j'attends juste que ça passe, je prends ce qu'il y a de bon et j'accepte ce qu'il y a de mauvais, c'est tout à fait louable, hein. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens que je rencontre, et j'imagine que t'as peut-être le même sentiment, et les auditeurs aussi, t'as l'impression qu'il y a une série de gens qui pourraient arriver au soir de leur existence en se disant mince alors, si j'avais su avant, je m'y serais pris plus tôt. Et ça, il y a des études qui le confirment, hein, 95% des gens qui arrivent en fin de vie émettent des regrets.
Waouh.
Donc ça, c'est quand même...
Soyons les 5%. Soyons les 5%.
S'il y a un message à retenir de l'action, c'est ça. C'est
Bien sûr.
Pourquoi à quoi ça sert de se bouger maintenant? C'est parce que c'est maintenant qu'on a la capacité à faire les choses. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est dans l'instant qu'on peut se mettre en mouvement en se disant, je vais chercher à retrouver ma trajectoire idéale pour dans X temps dans 10, 20, 50 ans, quand j'arriverai au soir de ma vie, ben, pouvoir me dire, j'ai eu une existence que je peux regarder avec le sourire.
C'est quoi. Ça, ou en tout cas, j'ai incarné ma lumière, ma brillance. Ça, c'est le terme d'une coach, Christine Levicky, qui était venue ici. Et puis finalement, je pense que le livre que tu as écrit est un livre qui participe aussi au bien-être global de l'humanité, sachant qu'on est dans une société où les gens sont un peu jaloux les uns des autres, se comparent énormément, sont très envieux. Est-ce que si finalement chacun à sa place contactait sa part de talent personnel, eh bien, ça permettra à chacun d'incarner sa pleine place, sa pleine lumière. Chacun aurait finalement son espace sans avoir besoin d'écraser l'autre pour penser que c'est une manière de le prendre.
Oui, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à ça. La première, c'est que, de fait, il est... C'est marrant, hein, parce que la phrase elle-même, tu peux te demander si elle est sensée, mais il est devenu plus facile d'espérer que ce soit le monde qui change et pas nous. Pourtant, l'entreprise est colossale, hein, de se dire que le monde change et puis je changerai derrière. Mais très souvent, un peu dans l'inconscient collectif, tu as l'impression que c'est quand même ce que les gens se disent, quoi, en disant « Oh, le monde va mal, le monde devrait changer. Et si le monde change, moi, je changerai à mon tour. » Or, on a chacun, chacune, un élément sur lequel on a prise, c'est nous-mêmes. Et si on commence par changer nous-mêmes, le monde changera. Parce que simplement, si on change nous-mêmes, notre monde, notre environnement direct va changer. On pourra influencer les autres, on pourra rayonner sur les autres, on pourra devenir le héros d'autres personnes, peut-être, en disant, cette personne-là, elle relève des défis, elle est en action, je m'y identifie, et le pouvoir d'identification est super important. Et de cette manière-là, on peut chacun, chacune contribuer à changer le monde. Le problème, c'est qu'on est dans une position attentiste la plupart du temps à se dire, on va d'abord attendre que les autres le fassent, et puis on verra si on le fait moi-même. Mais le problème, c'est que si on cherche d'abord à changer le monde avant de se changer soi-même, c'est qu'on prend un trop gros détour. La voie directe, c'est d'abord de travailler sur nous, quoi, et de bosser nous-mêmes. Et après, on peut espérer que si X... % des gens se mettent en marche pour changer les choses vont changer.
Surtout que moi, j'ai toujours pensé que la dynamique que tu entretenais avec toi-même était aussi la dynamique que tu allais finalement entretenir avec les autres et face au monde.
Bien sûr, bien sûr.
Donc finalement, être l'incarnation de ce changement et des valeurs qu'on a envie de voir s'opérer autour, c'est évidemment une manière d'influencer très positivement les gens autour de soi.
Ah bah oui, c'est Gandhi, il le disait. Hein. Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir.
Exactement.
En ce monde. Et donc c'est vrai que tout étant une question de perception et donc d'attitude derrière, comment je veux me coucher le soir, dans quel état, dans quel monde j'ai envie de me coucher ce soir. Alors c'est pas de la pensée positive, on va
mais
bien,
tout
va bien, ouais. Ouais, clairement. Il y a des tas de choses qui vont pas, mais si chacun, on arrive à se dire, je fais ma part et j'amène à travers mon attitude ma différence, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer les choses. Mm-hmm.
Il y a aussi, tu en parlais, un état d'esprit de gagnant et de gens d'action, en fait. Il y a aussi l'idée qu'à un moment, il faut plutôt se placer dans des pensées positives vis-à-vis de soi-même. Comme tu dis, on n'a pas toujours confiance en soi, mais au moins, on peut essayer de mettre en lumière des choses qu'on sait bien faire, parce qu'il y a des choses qu'on sait pas faire, mais évidemment, il y a aussi des choses dans lesquelles on est très bon, et ça pourrait être une des premières choses à faire, c'est faire juste prendre un petit recul sur soi et se dire, ok, bon, il y a des trucs que je saurais jamais les faire, mais si je me focalise dessus, je passerai ma vie à penser que je suis un incapable. Alors que si je mets en lumière des choses pour lesquelles je suis doué, bon, bah là, ça risque un petit peu de changer, et déjà changer mon état d'esprit, changer mes pensées.
Ah oui, bien sûr. Tu sais, c'est en fait les 5 principes d'action qui sont dans le bouquin, ils sont chacun liés à une excuse que les gens se trouvent pour rester dans la condition dans laquelle ils sont, même si cette condition ne leur convient pas. Et donc le premier, par exemple, la première excuse qui est fréquemment utilisée, c'est « je suis tout seul pour y arriver ». Et c'est peut-être ce que certains auditeurs se disent en disant, il est bien gentil ce garçon à dire qu'en changeant nous-mêmes, on peut changer le monde. Il dit, mais moi, si je fais mon petit truc dans mon coin, je suis tout seul et donc l'impact, il sera limité. Et ça, c'est quelque chose avec lequel plus le temps passe et plus je suis surpris. de voir comme les gens peuvent se sentir isolés. Tu parles à des chefs d'entreprise, bah, parfois ils sont un peu dans leur grand bureau, au sommet de leur pyramide, là, et ils ont le sentiment d'être seuls. Tu parles à des salariés, bah, ils se sentent un peu coincés entre la hiérarchie au-dessus, entre les gens dont ils s'occupent en bas, entre les collègues, etc. Ils ont un sentiment de solitude. Tu parles à des chercheurs d'emploi, s'il y en a bien qui se sentent seuls, c'est eux. Et tu parles à des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs qui te disent, bah, ouais, mais moi j'ai démarré mon business tout seul, et donc je rame parce que je suis tout seul pour y arriver. Mais, ça, je le dis de manière un peu cash, mais c'est une excuse. En 2014, avec les moyens de communication qu'on a, avec le nombre de gens qu'il y a sur Terre, c'est impossible.
Il n'y a pas de raison seul. De ne pas entreprendre, tu veux dire.
Ah oui, en tout cas, il n'y a pas de raison de se croire seul. C'est une perception, ça veut dire que c'est une disposition à un moment de l'esprit qui nous arrive de me dire « mais je suis tout seul dans la galère ». Et en fait, ça vient d'une interprétation négative, me semble-t-il, de ce que les autres peuvent nous apporter. Et si je parle de Philippe Gabillet, qui est professeur de leadership à l'ESCP, à l'ESCP Europe, qui a préfacé le bouquin Action, il le dit dans son livre Éloge de la chance, il dit « Le monde regorge de gens qui sont prêts à vous aider, pour autant qu'ils pensent que vous en valez la peine. » Et c'est souvent cette partie-là de la phrase qu'on néglige. C'est de se dire, j'ai besoin qu'on m'aide, ou j'ai envie qu'on m'aide, ou j'aimerais bien qu'on me file un coup de main. Mais est-ce qu'on se pose la question de dire, qu'est-ce que je vais mettre sur la table? Qu'est-ce que moi je vais apporter dans l'échange pour que la personne en face ait derrière envie de me filer un coup de main?
Bah, surtout, est-ce qu'on pense déjà soi-même qu'on en vaut la peine? Ce qui est le premier truc. Les gens ont confiance en toi, veulent bien t'accorder leur confiance au moment où ils sentent que c'est solide derrière parce que toi, ah t'as oui, déjà une certaine forme de fondation.
Ah oui, clairement. Mais tu sais, quand j'ai rencontré Philippe la première fois pour lui demander de préfacer le bouquin, ben, moi, ce que j'avais à mettre sur la table, c'est ça. C'est lui dire, je veux que tu sois la personne qui préface le livre, quoi. Et donc, c'est ça ma proposition, c'est de t'offrir la tribune dans le bouquin. Alors, il n'a pas besoin de moi, mais il l'a perçu comme étant, ben voilà, c'est aussi un cadeau qu'il me fait de pouvoir préfacer le livre, tu vois. Et donc, c'est juste une question de perception, parce que pour le même prix, j'aurais pu aller le trouver en disant, je suis un petit malheureux, j'écris un livre, et ça me ferait plaisir si tu acceptais d'écrire la préface. Ou là, il aurait peut-être pu se dire, bon, écoute...
Je te vois bien verser une petite larme.
Ben oui, mais tu peux, hein, on est tous à un moment donné enclin à penser comme ça. Avec l'environnement médiatique et autres qui nous bombardent de ce type de messages, quoi. Donc c'est la méfiance qui est devenue de rigueur plutôt que la confiance. Or, la plupart des gens sont bien intentionnés, quoi. Quand tu demandes de l'aide, la plupart des gens sont prêts à filer un coup de main. Mais il faut qu'ils perçoivent que tu en vois la peine.
Est-ce que lorsque tu crois aussi en ta chance, tu la provoques?
Ah oui, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Philippe Gabillet le dit, c'est la chance, c'est une compétence qui se travaille. Et donc, souvent, puisqu'on parle du premier principe qui est s'entourer, bah, souvent, tu as les gens qui disent « Ah oui, mais toi, tu connais plein de monde et t'arrives toujours à... » Oui, tu as de la chance, tu connais plein de monde. Mmh. Mais ça se provoque. Ça veut dire oser aller dans de nouveaux endroits, rencontrer des personnes. Ça veut dire aussi se dire je vais m'impliquer, je vais chercher à faire connaissance avec les personnes. Je vais te donner le deuxième principe que j'utilise parce que c'est directement lié à ça. Le deuxième principe que j'ai pu identifier chez les personnalités hors du commun qui réussissent, c'est qu'elles vivent dans le présent. À savoir qu'à un moment donné, elles ont leur sac de briques comme tout le monde, elles ont leurs aspirations pour l'avenir comme tout le monde, mais à un moment donné, elles font preuve d'une grande capacité à se concentrer ici et maintenant sur ce qu'elles peuvent faire là tout de suite, comme coup gagnant, qui va forcément, un peu comme un effet domino, si tu veux. Si tu fais un coup gagnant maintenant, bah, tu te mets dans la meilleure disposition pour le coup d'après. C'est Oprah Winfrey qui dit ça. Elle dit, si vous faites le meilleur maintenant, bah, naturellement, vous allez créer une sorte de spirale qui fait que vous allez tendre vers des actions de plus en plus positives. Et pour vivre dans le présent, un des exercices que je donne dans les séminaires ou les conférences, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, concentrez-vous pour retenir soit la couleur de ses yeux, soit son prénom. Pour vraiment se dire, ben voilà, je suis impliqué dans la relation qui se crée avec la personne que je rencontre et qui m'explique qui elle est et ce qu'elle fait. J'arrête d'écouter la petite voix qui me dit qu'est-ce qu'il va vouloir celui-là, il n'est pas dans le même business que moi donc ça ne m'intéresse pas, ou alors bon, il a l'air un peu curieux, je m'en méfie plus qu'autre. Non, c'est allez, je me concentre sur la personne, en faisant confiance au fait qu'à un moment, ça pourrait donner quelque chose. Quoi. La personne va exprimer une demande et toi, bah, pile, tu connais la personne qu'elle cherche à rencontrer ou tu connais quelqu'un qui la connaît. Ou à l'inverse, elle va dire, bah, voilà, moi, mon point de force, c'est ça. Ou dans mon business, je travaille ça. Et toi, tu te dis, ah ben mince, c'est justement ça dont j'ai besoin.
Donc, pas d'a priori, être dans l'ouverture de l'instant.
Oui, c'est accepter le fait de pouvoir se dire, à un moment, je fais confiance, je crois en moi et je fais confiance dans les autres, dans le contexte, dans l'action, parce que je sais que ça va pouvoir revenir ou ça va pouvoir être utile. Les personnalités hors du commun, elles utilisent énormément ça, quoi. Le fait de se dire, je suis à l'écoute des opportunités. Branson, il le disait, si on m'avait dit quand j'avais 18 ans que j'allais avoir, en plus du magazine que je venais de lancer, que j'allais aller dans l'industrie musicale et puis de l'industrie musicale passer à l'aviation et de l'aviation passer au tourisme spatial, il dit j'aurais pas pu le dire à ce moment-là, mais le fait d'avoir été ouvert m'a permis d'identifier des opportunités qui ont permis de se déployer, de se diversifier et de continuer à grandir et à progresser, alors même que certains business peut-être étaient en difficulté. Donc quand il a revendu la partie Virgin Megastore, etc., de l'activité musicale, mais ça il l'exprime lui comme un regret, il dit j'aurais dû le faire plus tôt, certainement, mais c'est le fait d'avoir été ouvert sur les autres possibilités et perspectives qui lui a permis d'avancer. Ça, c'est le troisième principe de l'action avec le fait de vivre dans le présent, c'est le fait de faire preuve de curiosité. T'as énormément de gens qui ont perdu le goût de poser des questions. Et ça, Steve Jobs, il l'a dit, nickel, il l'a dit, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit non quand j'ai demandé. Et j'ai toujours rencontré des gens qui ont bien voulu m'aider. Il y a une anecdote, quand il avait 14 ans, il commençait à bidouiller des composants électroniques, etc. Et à un moment donné, il a besoin d'une pièce. Et cette pièce, ils l'ont chez HP ou chez Atari. Et ils cherchent dans le bottin. Et ils tombent sur le numéro du boss, quoi. À l'époque. Ils tombent sur le numéro du patron qui était dans le bottin. Et il a 14 ans, il téléphone. Il dit, je m'appelle Steve Jobs. Voilà, je sais que vous avez ce type de composant. Moi, je suis en train d'assembler des trucs. Est-ce que vous en auriez un pour moi, quoi?
Il en a eu un, forcément.
Ah ben oui, le gars a été séduit. Il a été touché par sa démarche. Il a dit, passe un jour... à l'entreprise. Alors maintenant, tout le monde se dirait « Oui, mais ça ne marcherait plus comme ça, c'est pas possible, machin, tout ça. » Avec les médias sociaux, avec tous les moyens de communication qu'on a à l'ère digitale, qu'est-ce qu'on risque à essayer, à tenter ce type de démarche, quoi. Et donc Jobs, il l'a dit, moi je suis allé, il le raconte dans sa... Ça s'est raconté dans sa biographie, c'est une anecdote qu'il a partagée plusieurs fois. Et il le dit, non seulement je suis allé chercher la pièce, et en même temps, quand j'étais dans le bureau du patron, je lui ai dit, au fait, je cherche un stage pour l'été, vous n'avez pas besoin d'un interne ici. Et il a fait un stage là-bas pendant l'été. Voilà.
Donc, ce qu'on pourrait définir finalement comme une forme d'audace. Le mot de culot, c'est peut-être pas celui que j'emploierais, mais pour devenir un petit peu le héros de sa propre vie, il faut savoir faire preuve d'audace.
Et je pense que dès le moment où tu te mets en mode je veux devenir le héros de ma propre histoire, donc ou l'acteur principal ou le personnage principal, si les auditeurs sont mal à l'aise avec le mot héros, je pense que c'est plus de l'audace, c'est juste que tu as le sentiment d'être en marche et de faire ce que tu dois faire pour y arriver, quoi.
Mais sur le chemin pour y arriver, il y a forcément des petites étapes qui vont un peu faire flipper qui vont un peu faire flipper les gens, sur, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, c'est
donc
normal.
À ce moment-là, il va falloir faire preuve peut-être d'une forme de courage.
S'il n'y a pas ça, donc s'il n'y a pas les petits moments où tu flippes, où tu tressailles ou autre, c'est soit que l'enjeu n'est pas suffisamment important, et donc là, c'est peut-être que tu as sous-estimé ton potentiel ou ton pouvoir d'action.
Donc c'est bon signe.
C'est plutôt bon signe. Soit alors c'est que tu n'es pas dans l'insouciance et la naïveté de l'enfance que j'aime valoriser en conférence et dans les bouquins. C'est pas que tu es dans l'insouciance, c'est que tu es dans l'inconscience. Donc si tu te rends pas compte des dangers ou qu'à un moment donné tu n'as aucun indicateur qui s'allume chez toi en disant ici ça me fait flipper un peu et tout, ça me motive, mais en même temps j'ai une dose peut-être de peur ou peut-être même de stress, quoi, qu'on va exploiter de manière favorable ou accueillir de manière favorable. Si t'as pas ça, soit l'enjeu est trop bas, soit t'es inconscient, et c'est comme ça qu'on peut se prendre de sérieux murs, quoi. Donc faut pas confondre l'action avec l'agitation, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on s'y prépare. Dans ce que j'entends que tu dis, il y a cette notion que je trouve importante, qui est le quatrième principe par ailleurs, donc ça se met plutôt bien dans notre conversation. Le quatrième principe de l'action, c'est de cultiver l'imperfection. Donc L apostrophe imperfection. Ça veut dire que les gens qui tiennent le rôle principal dans leur histoire, très souvent, sont intolérants à la médiocrité. Hein, je dis bien cultiver l'imperfection, pas cultiver la médiocrité. Ça, ils sont généralement pas bons sur la médiocrité. Ils ont peu de patience par rapport à ça. Par contre, c'est des gens qui ne cherchent pas non plus la perfection. Pour le dire en une phrase, c'est des gens qui préfèrent être efficace et imparfait que de vouloir être parfait mais être jamais prêt au final. Et donc, cultiver l'imperfection, ça veut dire s'autoriser la répétition et la logique de progression permanente, quoi. Se dire, on sait bien que ça va pas être nickel du premier coup, mais on le fait en sachant qu'on le refera le coup derrière et que ça s'améliorera, et que ça s'améliorera, et que ça s'améliorera encore. Tu sais que Michael Jordan a attribué sa réussite à ce qu'il appelle la logique des petits pas. En disant, chaque jour, je me suis astreint à faire un petit pas de plus que celui que j'avais fait la veille. Et il dit, c'est ce qui m'a amené à aller à chaque fois un cran plus loin que ce dont je me croyais capable.
Et puis finalement, en fait, qu'est-ce que la perfection si ce n'est une vue de l'esprit ?
Exact. On vit quand même dans une société un peu paradoxale, parce qu'on dit on tout doit être parfait, et en même temps on dit on sait que la perfection n'existe pas. Donc c'est un peu délicat de ménager les deux. On peut franchement virer schizophrène, quoi. La perfection, dans les cas extrêmes, elle est classée dans les maladies mentales, hein, comme une névrose. Donc c'est une pression abusive. C'est Florence Servan-Schreiber qui dit ça dans son livre « Trois kiffs par jour ». Elle dit c'est une pression abusive qu'on s'inflige à soi-même au nom de la pression sociale, au nom du système scolaire ou pour obéir à son propre orgueil, quoi.
C'est ça.
Je répète, il vaut beaucoup mieux, c'est préférable d'être efficace et imparfait que de vouloir être parfait et être jamais prêt, quoi. Parce que très souvent, les perfectionnistes, c'est ça, quoi. C'est des gens qui passent un temps infini soit à préparer mais à jamais rien lancer parce que c'est pas suffisamment peaufiné pour y aller, soit ils se lancent mais ils terminent jamais.
Oui, ils en sont pas. Oui, ils en sont frustrés.
Parce que c'est jamais bien.
Ça ne les épanouit pas
suffisamment. Voilà, suffisamment top que pour dire ok, ça on est bon, on y est, quoi. Et donc c'est plus un, c'est finalement c'est plus à travers qu'autre chose, quoi.
Soyons parfaitement imparfaits.
Ouais, on pourrait peut-être dire ça. En tout cas, c'est cultiver l'imperfection, quoi. Donc se dire que échouer fait partie de l'apprentissage. Tal Ben-Shahar, qui donne des cours de, il est professeur de bonheur à l'université de Harvard, il le dit, si on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre. C'est de nouveau cette logique du vélo, quoi. C'est parce qu'on monte sur le vélo et qu'on tombe qu'on finit par trouver l'équilibre. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, en tant qu'adulte, je le crois, qu'on doit réapprendre, quoi. S'autoriser à tester, à faire et à se dire, on voit
et
comment...
Et à partir de zéro, surtout, un petit peu toute sa vie.
Ah oui,
toute
oui,
sa vie, bien. On peut continuer à apprendre et c'est nos seules limites sont les limites que l'on se met, en fait.
Ah oui, c'est ça. Et c'est aussi une belle leçon d'humilité, quoi. Hein, parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu as des choses à apprendre encore, et encore, et encore, quoi. Et ça, c'est le dernier axe, le cinquième point de la logique d'action, c'est de garder le cap à un moment. À savoir qu'on sait que c'est difficile. Et donc, l'excuse qui allait avec cultiver la perfection, c'est tout doit être parfait. Non. Et l'excuse qui va avec garder le cap, c'est souvent, c'est trop difficile. Donc, on abandonne. Le seul cas où l'abandon est tolérable, parce que j'ai parfois des gens qui me disent « Ouais, on sait que les winners, c'est ceux qui n'abandonnent jamais, quoi, et les losers, c'est ceux qui abandonnent tout le temps. » Les personnalités hors du commun, elles abandonnent aussi. Et ça, c'est super rassurant, en fait. Mmh. Quand tu lis ça et que tu apprends ça, simplement, quand elles abandonnent, elles le font très très vite, donc très tôt dans le processus.
Ouais.
Elles ne laissent pas pourrir l'histoire. Et deux, si elles abandonnent, elles tirent pas le frein à main pour autant, elles se mettent pas en inertie. Si elles abandonnent, c'est pour corriger le tir et c'est pour partir sur une autre voie qui va les amener à réussir. Mais donc ça, c'est un mythe sur la réussite qui peut franchement, que les auditeurs peuvent, s'ils y croient, ils peuvent franchement être assurés, quoi. Même les plus grandes réussites du monde des affaires, il y a des trucs sur les, qu'ils ont laissé tomber, quoi. Simplement, ils l'ont fait vite et ils ont corrigé le tir. Et donc, garder le cap, ça veut pas dire m'obstiner à tout prix.
Aller tout droit, mais ça, prendre une déviation, pourquoi pas.
Voilà, ça veut juste dire, je sais que je suis en marche et je sais parfois, je prends souvent l'exemple avec la natation, quoi. Quand tu vas à la piscine toutes les semaines, il y a des jours où t'as pas envie. Mais si pour toi, la valeur qui est derrière, c'est la santé, c'est le sport, ben à un moment donné, tu vas te dire, ok, j'ai pas envie pour le moment, c'est l'hiver, il fait froid, c'est la bouillasse dehors, mais je sais que ça me fait du bien, qu'au final, c'est bénéfique. Et donc, malgré le manque d'envie, j'ai le désir volontaire d'y arriver malgré tout, donc je vais nager.
Pas de procrastination dans ta manière de fonctionner ?
De la procrastination, c'est un peu c'est l'excuse qui est dans le deuxième principe, hein, vivez dans le présent, quoi. C'est l'excuse du je le ferai demain ou je le ferai hier. Parce que ça, il y a énormément de gens aussi qui disent, mais pour moi, c'est trop tard, quoi. J'aurais dû le faire avant. Maintenant, le train est passé. La procrastination, c'est quelque chose de délicat. Je pense qu'on peut à un moment donné terminer la journée en se disant aujourd'hui, ok, elle a déjà été dense, ça je le ferai demain. Mm-hmm. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que la logique de l'action, c'est une boucle de rétroaction qui est permanente. Et donc, il y a des choses que tu peux mettre à demain, à la semaine prochaine, au mois suivant, pour autant que le reste soit en marche, quoi. Et donc, il y a des actions, il y a des priorités qui prennent plus ou moins de temps à mettre en place. Ce qui est juste fondamental, me semble-t-il, c'est éviter l'inertie. Tu peux à un moment donné te dire, j'ai bossé comme un taré pendant 2 heures, que ce soit pour faire une offre, pour préparer un dossier, pour réfléchir à moi, pour faire quelque chose. Je reste dans la logique d'action, je vais marcher 15 minutes. En allant marcher 15 minutes, tu ne te mets pas à l'arrêt. Tu t'aères l'esprit, tu te réoxygènes. Et puis quand tu vas revenir derrière le bureau, tu vas peut-être marcher 20 minutes ou 25 minutes au lieu des 15. Et tu vas rentrer en te disant, oh, mince. Voilà l'idée, j'ai l'idée qui me permet de conclure le dossier sur lequel j'étais en train de sécher. Et là, on n'est pas du tout dans une logique d'inaction. Ça, j'ai remarqué, il y a des gens qui culpabilisent quand ils se disent, bah oui, mais je devrais être derrière mon ordinateur à travailler et j'ai pris un quart d'heure pour aller m'aérer. Ça, c'est physiologique. Le corps en a besoin, l'esprit en a besoin. Et ça, c'est toujours une logique d'action. De nouveau, pas confondre l'agitation avec l'action.
C'est ça.
L'agitation, c'est la personne qui se dit, si je cours pas dans tous les sens, ma vie est vide.
Oui, puis c'est l'action dans l'ouverture, l'action en conscience, en fait. C'est pas l'action avec des œillères où on fonce droit dans le tas, tu vois. Enfin, c'est ouais, l'action, l'action modulée, en fait. Là, comme tu dis, on peut prendre une déviation si à un moment on sent que l'action ne doit pas continuer tout droit, mais doit peut-être un peu aller vers la droite ou...
Ah oui, tu vois, c'est probablement même préférable hein, que de vouloir à tout prix continuer dans la même direction, alors que manifestement c'est pas la bonne voie quoi. Ce qui est intéressant à un moment, c'est de revenir à cette notion de trajectoire idéale et de pouvoir se dire mais tiens, dans mon existence, dans mes attentes par rapport à la vie, quand je vais me coucher ce soir ou dans 10, 20, 50 ans, plutôt le soir de mon existence et que je regarderai en arrière, ben est-ce que ce que j'ai fait avait du sens ? Est-ce que ça contribue à ma trajectoire idéale ? Et donc, on a deux manières de voir les choses. On peut regarder maintenant, plus tard, en disant, ben tiens, si je me projette maintenant, est-ce que ça aura du sens, ce que je suis en train de faire dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans ? Alors, l'action même, peut-être pas, mais peut-être qu'elle fait partie d'un ensemble plus large qui amène les gens à se dire, ben oui, parce que dans ma construction, moi, ce que je veux accomplir idéalement, c'est ça, et j'ai envie d'aller dans telle direction, donc, même si cette action, si elle paraît un peu insignifiante, elle va contribuer au plan d'ensemble, mm-hmm. si tu veux, ou alors, tu te projettes dans 10, 20 ou 30 ans, et tu regardes en arrière, en disant, bah, tiens, si la Nathalie Lefebvre de 2050 se retourne et regarde la Nathalie Lefebvre de 2014, est-ce que je pourrais lui dire, bah oui, ma grande, t'as bien bossé, quoi.
Je crois qu'elle la check, ouais.
t'es aligné sur la trajectoire que j'avais envie que tu prennes, quoi. Ouais. De nouveau, pour éviter d'être dans les 95% des gens qui se disent, merde alors, si j'avais su... Et alors, dans le « si j'avais su », c'est rare les gens qui disent « j'aurais passé plus de temps au travail hein. ». C'est quand même souvent des gens qui disent « j'avais toujours rêvé de lancer tel type d'activité, je ne l'ai jamais fait, j'aurais voulu passer plus de temps avec mes enfants, j'aurais voulu... » Enfin, il y a des tas de choses.
Mais les gens regrettent quoi finalement ? Globalement, de ne pas être allés vers leur essence profonde.
Oui, exact. Très souvent, ce qui est manifesté, c'est j'ai pas croqué pleinement la vie, j'ai pas croqué la vie à pleines dents comme j'aurais pu. Et là, moi, je suis tout à fait à l'aise. Hein, ça passe par l'épanouissement professionnel aussi. Steve Jobs l'a dit, on passe tellement de temps au travail qu'on ne peut être pleinement épanoui que si on fait ce qu'on aime.
C'est clair. Ça, c'est sûr. Alors, mon cher Fred, avant qu'on conclue cette émission, qu'on redonne un petit peu toutes tes coordonnées, les endroits où on peut se procurer le livre, j'aimerais juste te lire un extrait d'un discours de Nelson Mandela que je pense tu connais déjà limite par cœur, mais que moi, j'ai retrouvé il y a 2 jours et c'était pile le moment où j'avais besoin de lire ça, donc je vais le partager, ça colle pile avec notre sujet d'aujourd'hui.
Super.
Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question. Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Sacré Nelson, hein.
c'est plutôt joliment dit, hein. C'est en échangeant nous-mêmes que nous contribuons puissant. À changer le monde.
Complètement. Alors, en tout cas, on peut se procurer ce fabuleux ouvrage, donc le 2e tome de l'étude des héros, Action, devenez le héros de votre propre histoire, relevez vos défis, donc écrit par Fred Colantonio, préface de Philippe Gabillier, édition Attitude des héros. Donc on peut le trouver sur le site internet, il me semble,
oui,
sur Amazon.
Le plus simple pour les amis français, c'est Amazon. Donc sur Amazon.fr, le bouquin, il suffit de taper l'attitude des héros et on arrive dessus. Il est disponible en format papier et en version numérique aussi.
Super.
Donc le plus simple, c'est vraiment Amazon.fr. Et sinon, si certains auditeurs ou auditrices souhaitent une dédicace, moi je le fais volontiers avant l'expédition du bouquin. Mais alors là, il faut passer par le site www.latitudeshéros.com et demander alors une dédicace.
Ça vaut le coup la dédicace. Donc www.latitudeshéros.com. J'imagine qu'on peut aussi obtenir des informations sur les conférences que tu donnes un petit peu partout.
Oui, c'est en cours, quoi. Donc dans l'évolution du site, l'agenda va être pleinement inscrit. Donc il y aura une présentation très claire des 3 grandes conférences qui existent pour le moment. Donc la conférence Inspiration, la conférence Action et la conférence Signification. C'est le cycle des bouquins aussi, hein. Signification sortira l'année prochaine. Et donc l'agenda des dates sera aussi en ligne d'ici quelques semaines, oui.
Super. Bon, bah encore une fois, un grand merci. C'est toujours un bonheur, en fait. On a envie de devenir le héros de sa vie. C'est tellement une envie incroyable que moi, je vais t'inviter tout le temps pour me le rappeler. J'aime trop cette idée. Voilà, et on est ravis d'avoir partagé cette émission. Je suis sûre que les auditeurs ont été aussi inspirés que moi et que ça y est, là, on quitte le studio, on se met dans l'action. C'est parti.
Allez.
Merci, Fred. À
Avec
bientôt.
Avec plaisir. Merci aussi.